que l'un d'entre vous peut lire à haute voix ou réciter à haute voix 2 Timothée 3:16. Et je vais attendre parce que c'est pas moi qui vais le faire. Est utile pour
enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une manière juste de vivre.
Merci. Donc si nous croyons cela, nous pouvons l'appliquer pour 2022. On a dû l'appliquer certainement pour les années précédentes. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile. Et je vous invite à prendre dans Roi 19, Ancien Testament, Roi 19, 1 Roi 19, versets 1 à 15. Nous ne lirons pas de 1 à 15, mais gardez-les sous les yeux. Vous avez peut-être déjà croisé des enfants, certains travaillent avec. Vous en avez vu dans votre entourage, peut-être même des un petit peu plus âgés, qui après avoir lu un livre, regardé un film, les films ou les séries ont peut-être plus d'influence, ces enfants, ces jeunes, se prennent pour l'un ou l'autre des personnages, et c'est la compétition à savoir qui va être le héros, qui va être l'un ou l'autre ou tel autre héros. Évidemment, personne n'a envie d'être le perdant de l'histoire ou le méchant ou... le vilain dans l'histoire, on veut tous être le héros. À la fin, ben, ça se finit souvent en dispute. Et c'est souvent d'ailleurs, selon l'adage de la Fontaine, le plus fort qui a raison à la fin. Et donc du coup, ben, c'est pas juste. Toi. Dans la vie, c'est souvent comme ça, c'est pas juste. C'est pas juste parce que celui qui sera capable de parler plus fort, de crier plus fort, de s'imposer, va pouvoir être le héros. Il va s'identifier et puis ben, les modes changent, les héros passent. Et puis... on s'identifie un petit peu à celui qui est la star du moment. Les enfants font ça, mais pas que les enfants. On a besoin de modèles, et nous nous réclamons, nous l'avons chanté ce matin, nous nous réclamons de Christ, qui est notre modèle. Ça fait un modèle quand même qui est haut placé à imiter. Et quand nous lisons, et nous avons récité juste avant là, 2 Timothée 3:16, toute écriture est inspirée, ça veut dire qu'on peut retirer un enseignement. Prends un passage dans les Écritures, on peut retirer un enseignement et se l'approprier. Et bien souvent, dans les histoires épiques que nous livre l'Ancien Testament, on peut se poser la question à qui est-ce qu'on va s'approprier le personnage, qui va être notre modèle. Alors là, nous sommes avec le prophète Élie. Il est entouré par des personnes assez particulières qui sont décrites un petit peu plus tard dans les rois comme étant les personnes qui ont été les plus vendues à l'ennemi. Acab, Jézabel, ils ont entraîné le peuple loin de l'Éternel. Donc personne, évidemment, a envie de jouer le rôle d'Acab si on faisait une mise en scène, encore moins Jézabel. Et puis il y a d'autres personnages qui gravitent. Je lis juste le début. Acab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Mais qu'est-ce qu'Élie a pu vraiment faire pour mettre Jézabel dans cette fureur, pour qu'elle envoie ce message à ce prophète? Et surtout, pourquoi Élie a dû répondre à 2 reprises à la question de Dieu, « Élie, que fais-tu ici ?» Apparemment, il avait bien fâché la reine, Élie, pour qu'elle lui envoie ce message. Il avait dû faire quelque chose d'extraordinaire. Vous connaissez l'histoire ? Évidemment, vous connaissez l'histoire. Élie, lui, il a le profil du super-héros. Jusque-là, juste après sa victoire sur le mont Carmel, Élie avait annoncé quelque temps auparavant à Acab une sécheresse, qui était placé en plus sous son autorité, il ne pleuvra pas tant que ma parole ne dira pas qu'il pleut, à nouveau. Lui-même étant placé sous l'autorité de l'Éternel, le prophète avait été préservé par Dieu au torrent de Kérit, nourri par les corbeaux, puis à Sarepta chez une veuve pendant un bon moment. Le foyer ne manquait pas de nourriture pendant le séjour d'Élie. Et lorsque son enfant est mort, Élie a imploré l'Éternel et la veuve a retrouvé son enfant vivant. Au bout de 3 années, Élie a reçu l'ordre de l'Éternel de retourner à la rencontre d'Akab. En chemin, il a rencontré Abdias, qui était un serviteur fidèle, qui avait en secret protégé 100 prophètes de l'Éternel au risque de sa vie. Et puis ensuite, nous avons donc cette très célèbre histoire du Mont Carmel, avec le défi que Élie a fait pour confondre les prophètes de Baal, qui incitaient le peuple à adorer des idoles. Et eux, ils étaient bien traités à la table royale. Ils n'étaient pas obligés de se cacher. Après une victoire éclatante que tout le monde connaît, et que je vous invite à retrouver dans le chapitre 18, Élie termine par un marathon, courant plus vite que le char d'Akab pour arriver avant lui à Jizréel. Alors que là, la pluie, l'orage arrive, la pluie revient. Ces récits spectaculaires se succèdent avec un Élie qui va être enlevé sur un char, dans un tourbillon, et une passation de la mission à un autre prophète, Élisée. Et là, nous sommes déjà arrivés dans deux rois. Mais il y a ce fameux chapitre 19, que vous avez gardé évidemment sous les yeux, dans lequel l'Éternel va demander par deux fois à Élie, « Élie, que fais-tu ici ? Comment ce super-héros, doté de tant de super-pouvoirs, s'est donc retrouvé dans le désert, sous un genêt, un arbre, en train de réclamer la mort ?» Il y a encore des volontaires pour ressembler à Élie, là, pour s'identifier à Élie. Super-héros, il implore l'Éternel et un enfant revient à la vie. Il implore l'Éternel, le feu vient consumer un autel pour confondre les faux prophètes. Il est rempli de la puissance de l'Éternel, il court plus vite que le char. Et là, il est sous un arbre en train de réclamer la mort au fin fond du désert. Combien parmi nous n'ont jamais dit, ou au moins pensé, moi, j'en ai marre, j'en ai assez, et j'arrête tout. J'abandonne. Comment est-ce possible ? Comment est-ce possible qu'un homme comme Élie, qui a ressuscité des morts, appelé le feu du ciel, éradiqué les prophètes de Baal, puisse subir ce qu'on appelle aujourd'hui une défaillance, une dépression ? De manière un peu plus triviale, un coup de barre ou un coup de mou ? Carrément, parce que pour se retrouver à demander la mort en plein désert, il faut avoir pris une sévère défaillance, une sévère dépression. Nous avons d'autres exemples. Job 10.1, « Mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. » Jérémie 15.10, « Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître, un homme de dispute et de querelle pour tout le pays. Je n'emprunte ni ne prête, et cependant tous me maudissent. » Jonas 4.3, « Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Qu'est-ce qui peut plonger ces hommes de Dieu à prononcer des paroles de dépression aussi profondes? Ah bah oui, Élie a reçu un message de Jézabel qui lui a dit qu'elle allait faire pareil avec sa personne. Qu'est-ce qu'il avait fait avec les prophètes? Mais Élie a rencontré d'autres motifs de perdre le moral depuis. La sécheresse, l'isolement, il s'est retrouvé avec des situations, avec de l'adversité, nettement plus complexe que juste ce message de Jézabel qui lui dit « Je vais envoyer du monde pour te faire la peau. » En clair, c'est ça, une espèce de vendetta. En fait, Élie était complètement épuisé. épuisé. Gagner des victoires sur l'ennemi, c'est fatigant. La lutte spirituelle est dure. Jésus lui-même se retirait souvent afin de se reposer et de renouveler ses forces par la prière et la communion avec son Père. Il le commanda à ses disciples après que ces derniers furent rentrés de leur ministère quand il les a envoyés deux par deux. Nous pouvons lire ça dans Marc 6, 31. Jésus leur dit « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient pas le temps de manger. Il y avait certainement beaucoup à faire, nous avons certainement beaucoup à faire. Mais ne laissons pas nos serviteurs de Dieu, s'épuiser dans les luttes spirituelles que eux, ils mènent à notre égard. Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Quand l'un ou l'autre de nos leaders dans notre assemblée commence à montrer des signes de fatigue, d'impatience, quand il commence à râler, quoi, que ça ne va pas, prenons les devants et veillons à leur état de forme. Élie, il en a ras-le-bol, hein, c'est ça ? Il en a marre. Moi, verset 3, je ne joue plus. J'ai gagné la victoire, j'ai nettoyé le pays des prophètes idolâtres. Je leur ai prouvé que l'Éternel était Dieu, je leur ai donné de la pluie. Et comment me récompensent-ils ? Ils n'ont rien compris. Akab, lui, il ne fait que rapporter ce qu'il voit à Jézabel, dont on le lit, verset 1, tout ce qu'avait fait Élie. Il avait été témoin, spectateur, Akab. Et lui-même n'avait même pas compris que c'était Dieu qui avait donné le feu et la pluie. Il est allé dire à Jézabel, non pas l'Éternel a fait ceci, c'est Élie, regardez ce qu'il a fait. Et bien du coup, Élie, il dit, moi j'en ai marre, je démissionne. Ça suffit. C'est un autre signe d'une défaillance qui approche. Quand un frère ou une sœur commence à se retirer, à ne plus vouloir tenir ses engagements, à ne plus exécuter ses tâches et ses responsabilités avec joie ou avec courage. Et en général, nous sommes très bons pour commencer par faire un petit diagnostic, un audit ou un diagnostic critique, voire sévère et culpabilisant. Tiens, il nous fait encore un caprice de chef. Tous les mêmes. C'est mieux s'il arrête, hein. C'est mieux s'il va s'asseoir au fond et si en plus il peut se taire. Parce qu'en plus, à chaque fois qu'il ouvre sa bouche, il râle. Revenons à Élie. Lui, Élie, comme il en a marre, il s'est enfui et il s'en va tout seul. Verset 3, il s'en va seul. Il laisse sur la route, en plus, son serviteur. Et cette solitude n'est pas nécessairement précurseur de dépression ou de défaillance. On peut être seul à des moments. Mais là, il n'est pas seulement seul, il s'isole. Il s'isole parce qu'en fait, il a peur. Il a peur, il est dans la crainte et dans l'épuisement. Un chrétien ou une chrétienne, même s'il est leader, reste une brebis. Et notre adversaire, nous le savons, rôde comme un lion rugissant, cherchant à dévorer. Et il va aller dévorer la brebis qui s'éloigne du troupeau. Pas forcément la brebis qui s'éloigne du troupeau pour aller profiter de la vie et pêcher, et aller vers des joies qui sont proposées par l'ennemi. Non, peut-être juste celui qui est fatigué, qui n'arrive pas à suivre le troupeau, celui qui s'isole parce qu'il en a marre, parce que ça ne va pas. Et l'ennemi rôde, cherchant à savoir qui il va dévorer. Combien est donc importante cette communion fraternelle que notre Dieu a voulu pour l'Assemblée ? C'est un des piliers de notre foi. Dans Actes 2, 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Nous devons veiller plus que jamais à ce que personne ne s'isole. Revenons à notre héros qui n'a pas le moral. L'étape suivante, une fois que l'on est isolé, c'est de prendre pitié de soi-même. Pauvre moi-même. En fait, il s'agit, on le voit verset 4, il s'agit en fait d'une forme d'orgueil. Élie croit qu'il a fait tout ce qu'il devait faire et que la situation dans laquelle il est tout à fait la faute des autres. Élie croit qu'il a fait tout ce qu'il devait faire et que la situation dans laquelle il est tout à fait la faute des autres. Toute ressemblance avec des situations que nous vivons serait sortie de mon imaginaire ou du vôtre. Alors, nous l'avons vu, il a décidé de partir tout seul. Il abandonne son serviteur sur le chemin. Il ne s'agirait pas d'avoir quelqu'un avec qui échanger. Il oublie qu'Abdias a sécurisé des prophètes et que des fidèles demeurent présents dans le peuple. Et il prononce ces paroles. « Moi, pauvre prophète tout seul. » Il ne l'a pas dit comme ça. Hein. « Moi, pauvre prophète tout seul, seul fidèle. Je suis seul contre tous et surtout Jézabel qui veut ma mort. » Donc j'aimerais bien mourir avant que ce soit elle qui décide de me tuer. Alors Élie, où est ton courage? Où est ta foi? As-tu oublié que Dieu te protège? Et ne te rends-tu pas compte que ce n'est pas toi qui décides de la fin de ton ministère? Ton ministère n'est pas terminé, Élie. Vas-tu laisser l'ennemi t'éliminer maintenant que le peuple qui vient de reconnaître que l'Éternel est Dieu a tellement besoin d'un prophète? C'est un paradoxe, notre ami Élie. La plupart des gens ne veulent pas mourir. On l'entend partout. On aime la vie, on aime la fête, on a envie de vivre, hein, il faut qu'on vive. On nous empêche de vivre en ce moment. Ça, on l'entend. Donc on a envie de vivre. Mais voici, un des seuls hommes qui, dans l'histoire, n'est pas destiné à mourir, prie, lui, pour mourir. Combien de fois avons-nous un comportement paradoxal devant l'adversité? Où est le croyant plus que vainqueur? Plus que vainqueur, ben voyons. Dans Jacques 5, 17, il est écrit « Élie était un homme de la même nature que nous. » Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Mais surtout, Élie était un homme de la même nature que nous. Dieu ne veut pas laisser Élie dans son trou. Élie s'est enfui dans le désert, mais Dieu savait où il se trouvait. Psaume 139, 7, 12. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. On ne peut pas se cacher. Il n'y a aucun désert qui puisse nous éloigner de la face de Dieu. Mais Dieu, comme toujours, nous laisse le libre arbitre. Il laisse libre son fidèle serviteur qui, à la lecture du message de la reine, ne prend même pas le temps de consulter son maître. Alors Dieu le laisse faire jusqu'à un certain point. Vous vous rappelez comme Jésus est venu à la rencontre de ses disciples lorsque la tempête commençait à prendre le dessus sur leur courage? Jésus est venu au-devant de ses enfants dans la défaillance. Alors Dieu vient au-devant d'Élie et commence par le faire arrêter de fuir. Alors nous, évidemment, nous ne fuyons jamais devant l'ennemi. C'est connu. Moi, quand j'échoue dans un domaine ou dans une mission, il ne m'est jamais arrivé, par exemple, de me jeter sur une nouvelle mission ou un autre projet pour vite oublier le précédent qui ne fonctionne pas. Ça m'est jamais arrivé, à vous non plus. Dieu commence par l'arrêter. stop. Et Dieu le restaure. Verset 5 à verset 8, il lui fait apporter à manger, à boire, et il le fait dormir. Il le fait dormir. Et quand il est réveillé la première fois, ce n'est pas encore assez. Alors il recommence. Dieu sait ce dont il y a besoin. Et il connaît les limites de ses forces et des nôtres aussi. Avec la nourriture que l'ange a apportée, il a la force ensuite de marcher 40 jours et 40 nuits. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans cette nourriture. 40 jours et 40 nuits, et il n'avait même plus besoin de dormir. Son corps est plus fort que jamais. Et notre héros, là, est arrivé jusqu'à la montagne. Mais son esprit sombre toujours dans la défaillance et la dépression. Il a toujours le moral à s'enfermer dans une caverne. Verset 9. Dieu l'a conduit jusqu'à Horeb, et Dieu ne lui a pas dit d'entrer dans cette caverne. Ça, il l'a fait lui-même. D'où la question, encore une fois, que fais-tu ici ? Nous voyons qu'il ne suffit pas d'être à l'endroit voulu par Dieu. On doit aussi, une fois arrivé dans cet endroit, faire ce que Dieu nous demande de faire. Et quand Dieu lui pose la question, Élie répond la même chose. Je suis tout seul, j'ai éliminé les vilains prophètes, et là maintenant ils veulent me faire mourir. Mais il n'a pas répondu à la question, que fais-tu ici ? C'est pas moi, c'est les autres. Donc il se plaint de sa situation. Dieu m'a guidé dans cette église. Dieu vous a guidé dans cette église. Et maintenant, je dois me conformer à ce qu'il me demande d'y faire dans cette église. Sinon, les échecs et la frustration seront mon quotidien, seront votre quotidien. Et pire encore, ces échecs et ces frustrations, je vais les véhiculer autour de moi. Dieu va se révéler d'une manière moins fracassante que d'habitude pour Élie à présent. Dans le calme et non dans le vent, et le feu. Il en a vécu des choses extraordinaires, Élie. Là, cette fois-ci, Dieu se révèle dans un souffle léger. Verset 14, deuxième question identique. Élie, que fais-tu ici ? Il y avait un célèbre homme politique qui disait « Journaliste, vous êtes venu avec vos questions, moi je suis venu avec mes réponses. » Ça parlera à une certaine génération. Deuxième question identique, et Élie répond toujours pareil. Qu'est-ce que les gens négatifs, peuvent être têtus ? Mais du coup, Dieu n'écoute pas sa lamentation. Il ne se donne même pas la peine de le contredire, ni de le corriger, ni d'argumenter avec lui. Dieu passe à la suite. Il lui donne un ordre. Verset 15. Il lui donne un ordre. Vous connaissez la différence entre entendre et écouter. Et ce n'est pas valable que pour ceux qui ont des enfants. Il y a des enfants ici qui savent que des fois les parents nous entendent sans nous écouter. Et nous savons aussi, parents ou adultes, que les enfants peuvent nous écouter sans nous entendre ou nous entendre sans écouter. Nous faisons la différence. Quand Élie a renouvelé ses doléances une fois de plus, qui sont en partie erronées, je suis tout seul à être fidèle, c'est pas vrai. Dieu l'entend, mais ne l'écoute pas. Il ne le corrige pas, ne le contredit pas et n'argumente pas. Il y a des ordres qui suivent. Élie a besoin d'être en train de faire ce que Dieu lui demande de faire au bon endroit. Il va avoir plusieurs missions, Élie. Oindre un roi, nommer un général et avoir une passation avec un autre prophète. Dieu le prépare ici pour sa plus belle expérience de toutes, une expérience presque unique, son ascension au ciel. Sans mourir, passer de la vie terrestre à la vie céleste, entrer en communion directe et étroite avec Dieu lui-même. Non seulement entendre sa voix, mais voir son visage. 9 siècles plus tard, ce même Élie a été vu par 3 disciples, transfiguré parlant avec Moïse et Jésus. Et d'ici peu, selon l'Apocalypse, ce même Élie reviendra sur la terre comme témoin invincible de l'Éternel pendant la période de ténèbres les plus noires à jamais tombées sur cette planète. Alors oui, Dieu n'a pas laissé Élie dans la défaillance. Au contraire, cet épisode l'a conduit à plus de communion et de service avec son Créateur. Alors, si nous gémissons devant les difficultés passées, présentes ou à venir, parce que nous sommes les champions de l'agenda, on est déjà capable de prévoir les soucis qu'on va avoir dans quelques temps, même des fois on les programme. Tenons-nous prêts à entendre de la part du Seigneur. Et toi, que fais-tu ici? Et comme au verset 15, va et reprends le chemin. Jésus a annoncé à ses disciples que le Saint-Esprit viendrait sur eux. Qu'en son nom et par sa puissance, il accomplirait de grandes choses. Ce souffle que le prophète a entendu, sommes-nous prêts aujourd'hui à l'entendre? Et je vous laisse avec cette question, comment répondrons-nous? Prions. Te remercions Seigneur pour ces exemples, pour ce prophète. Ce prophète Élie. Dans Jacques, il est écrit qu'il était un homme fait comme nous. Merci Seigneur parce que tu nous donnes cette puissance qui vient de toi. Seigneur, donne-nous de l'utiliser à bon escient, d'être au bon endroit, à accomplir la bonne mission. Merci pour ces encouragements, Seigneur, ce matin.